Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve et nous allons prendre la suite de ce que nous avons vu la dernière fois et nous avions commencé à identifier la marque de la bête. Alors je vous rappelle ce que nous avons dit de la deuxième partie du chapitre 13 avec cette fameuse bête qui monte de la terre. Cette bête induit au niveau de la population mondiale une adoration générale pour la première bête. Elle séduit les habitants de la terre d'abord par des prodiges, et Jésus nous avait avertis de cela, au point même qu'elle provoque une fausse pluie de l'esprit. Et elle va même demander aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Elle ne la leur impose pas, elle leur demande de faire une image. Et non contente de demander aux habitants de la terre de faire une image, elle va animer cette image. Comment va-t-elle faire ensuite? Elle va faire que l'image de la bête qu'elle anime édicte un décret de mort. Comment va-t-elle s'y prendre? Elle va d'abord imposer que tous les habitants de la terre reçoivent une marque, la marque de la bête, de telle sorte que personne ne puisse ni acheter ni vendre. Et bien sûr, c'est la première étape avant davantage de restrictions. Mais il nous faut maintenant identifier cette marque de la bête. Quelle est-elle? Alors pour cela, nous avons plusieurs éléments. La première caractéristique est que cette marque peut être appliquée sur la main ou sur le front. Et quand nous cherchons des textes qui nous parlent de la main et du front, nous tombons sur quelques textes, pas très nombreux, qui nous parlent de prescriptions de Dieu. Alors nous avons d'abord des prescriptions sur la Pâque, et puis nous avons également des prescriptions sur les 10 commandements. Et cette pratique était appelée sur la main ou sur le front. En effet, le fait de faire quelque chose, rappeler, raviver un souvenir. Par exemple, le fait de manger la Pâque avec des herbes amères, rappeler le souvenir de la sortie d'Égypte. Une fois qu'on a fait ce lien entre la main et le front, que l'on a compris qu'il s'agissait d'une prescription ou d'une loi, nous comprenons qu'il s'agit donc d'une loi que la bête va imposer au monde entier. Le deuxième élément qui va nous permettre d'approcher l'identification de cette marque se situe dans le livre du prophète Daniel. Et nous apprenons là qu'une puissance, que je n'ai pas le temps de définir ici, mais qu'une puissance, à la fin, ferait oppression sur le peuple de Dieu. Et en même temps qu'elle opprimerait le peuple de Dieu, à l'intérieur de cette oppression, au chapitre 7 et au verset 24 et 25, elle changerait, elle espérerait changer les temps et la loi. Et nous comprenons que c'est à travers un changement de loi qu'elle va réussir à persécuter le peuple de Dieu. Par conséquent, on arrive à cette conclusion que la marque de la bête, c'est une loi de Dieu, mais qu'elle l'a changée, qu'elle a détournée, pour en faire sa propre loi. Et nous en étions arrivés à ce point quand nous avons terminé notre précédent exposé. Alors, nous le reprenons maintenant au même endroit. Et il se trouve que la loi de Dieu a été modifiée. Elle a été modifiée à deux endroits. D'abord au niveau du deuxième commandement. Le deuxième commandement prescrivait de ne pas faire d'images taillées et surtout de ne pas se prosterner devant ces images taillées, c'est-à-dire devant ces statues. Supprimé purement et simplement, et effectivement, le système féodal du Moyen-Âge ayant multiplié les statues et ayant multiplié les génuflexion devant ces statues, ne pouvait pas garder le deuxième commandement. Et pour maintenir le nombre, eh bien, elle a divisé le dernier commandement en deux, de sorte que nous avons deux commandements à la fin sur la convoitise. Et puis, une autre modification est intervenue sur le quatrième commandement. Cette modification paraît peu sensible, mais elle transporte le jour du repos du septième jour au premier jour de la semaine. C'est-à-dire qu'au lieu d'observer le sabbat, ce système-là a imposé, à partir de Constantin, d'observer le premier jour de la semaine, le dimanche, comme jour de repos. Et depuis, la plupart des chrétiens observent le dimanche comme jour de repos. Alors me direz-vous, est-ce si important ? Eh bien oui, c'est important et nous allons voir pourquoi. Mais c'est surtout important parce que Dieu a fait de ce sabbat, de ce jour de repos, le samedi, le septième jour, un signe. Et la notion de signe rejoint la notion de marque. C'est une marque visible, comme un sceau. Alors, regardons d'abord ces textes qui nous parlent de ce signe visible qu'est l'observation du repos du sabbat. Nous allons trouver le premier texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Un deuxième texte nous dit à peu près la même chose et se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 20 et au verset 12. « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Et au verset 20, nous avons à peu près la même chose, mais avec une petite nuance. « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Par conséquent, nous avons là trois textes qui nous disent clairement que le sabbat est un signe. Mais il faut qu'il y ait un lien entre le signifiant et le signifié. Et c'est un signe de quoi ? Ces textes nous disent tous que c'est un signe, non pas du fait que nous sommes de bons serviteurs de Dieu, non, pas du tout. C'est un signe que c'est Dieu qui nous sanctifie. Et là, il nous faut essayer de comprendre ce que cela signifie. Nous avons un exemple de ce lien qui doit exister entre le signifiant et le signifié à travers un texte que je vous propose de lire dans le livre, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4 et au verset 11. Romains, chapitre 4, verset 11. Et il s'agit d'Abraham, reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Abraham reçut le signe de la circoncision. Et c'était le signe qu'il avait reçu la justice de la part de Dieu. Mais quel lien entre les deux ? Eh bien, ce signe de la circoncision ravivait un souvenir particulier, le souvenir de l'alliance que Abraham avait traitée avec Dieu. Au chapitre 15 de la Genèse, on trouve ce récit. Et Abraham avait partagé un certain nombre d'animaux en deux. Il les avait coupés. Et pendant toute la journée, il avait chassé les oiseaux de proie qui s'étaient abattus sur ces victimes-là. Puis le soir arrivé, il tombe dans un profond sommeil. Et Dieu, lui aussi, sous la forme d'un feu, passe au milieu de ces animaux. C'est-à-dire que Dieu et Abraham passent par le même chemin. Mais quelle relation avec le fait de couper ? Eh bien, probablement qu'il y avait là aussi l'idée de couper les animaux. Et on dit d'ailleurs en hébreu « couper une alliance » et non pas « faire une alliance ». Il y avait aussi sans doute le fait de renoncer à une partie de soi-même, renoncer peut-être un peu à ce jardin secret, au péché mignon que l'on cherche à garder, au vieil homme, comme l'appelle l'apôtre Paul. C'était aussi un signe de la mise à nu de son âme devant Dieu. Vous voyez donc qu'il y a un lien de sens entre le signifiant et le signifié, entre le geste que l'on fait et ce qu'il représente dans le cœur et dans la pensée. Alors, le sabbat, l'observation du sabbat a-t-elle un sens ? L'observation du dimanche a-t-elle un sens ? Oui. L'observation du sabbat, c'est simplement le fait de se reposer. Ce jour-là, Dieu ne demande pas que nous fassions quelque chose. Il demande que nous ne fassions pas. L'œuvre que nous faisons, le travail que nous pouvons faire, d'habitude les autres jours de la semaine d'ailleurs, le commandement dit lui-même, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. Quel sens cela a-t-il dans notre vie spirituelle ? Cela veut dire que pour me sanctifier, puisque c'est le signe que c'est l'Éternel qui me sanctifie, cela signifie que pour me sanctifier, je ne compte pas sur moi. Je compte sur l'œuvre de Dieu. Si j'observe le samedi comme jour de repos, ça n'est pas le signe d'une obéissance aveugle, c'est parce que j'accepte cette idée que je ne peux pas moi-même me sanctifier et que je me repose sur l'œuvre de Dieu pour me sanctifier. Je ne choisis pas au fond ce jour, je le prends tel qu'il m'est donné. Par contre, si je choisis un autre jour, alors ce choix seulement est déjà une œuvre. Et cette œuvre, cela veut dire que je bâtis ma relation avec Dieu. Je la bâtis sur un choix personnel, mais qui est différent du choix que Dieu a fait. C'est-à-dire que j'entends bâtir ma sanctification et au-delà, je prétends bâtir la cité de Dieu sur la terre. Je prétends bâtir le bonheur de l'homme, je prétends bâtir sa vie spirituelle sur cette base-là. Et si quelqu'un vient à m'entraver dans cette construction, alors j'ai le désir de l'écarter et je deviens persécuteur. Oh, il est plus probable que la plupart des personnes ne mettent pas ce sens derrière l'observation du sabbat ou l'observation du dimanche. Il est probable que la plupart des gens font ce que leurs parents ont fait. Il n'empêche qu'il est extrêmement important de maintenir ce sens. Le repos que Dieu me propose, ça n'est pas un repos simplement qui consiste à ne rien faire. Il ne me dit pas de ne rien faire ce jour-là, non, de ne rien faire de ce que je fais habituellement. Il est un peu comme un fiancé qui dirait à sa fiancée, « Eh bien voilà, ce jour-là consacre-le-moi. » Alors la fiancée est obligée d'arrêter ses activités, mais elle en est très heureuse, elle va rencontrer son fiancé ce jour-là. Et la fiancée demande, « Mais que dois-je faire ?»« Ah non, non, je ne t'impose rien. Surprends-moi, ravis-moi. » C'est-à-dire que ce jour-là, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire pour Dieu, le louer, réfléchir, penser, m'arrêter sur le chemin de mon travail de tous les jours et me reposer sur lui. Dans la période de désert, ce jour-là, même la manne ne tombait pas. La nourriture n'arrivait pas, mais le vendredi, il en arrivait deux fois plus que d'habitude, de sorte qu'il y avait assez de nourriture. Il s'agit donc de compter sur Dieu, à la fois pour sa vie de tous les jours, mais pour sa vie spirituelle. Alors, si nous avançons dans cette direction, nous comprenons que la plupart des personnes n'ont même pas l'idée qu'elles suivent un parti ou un autre. Elles n'ont même pas l'idée qu'en observant le dimanche, elles paient allégeance, elles font allégeance à une autorité qui n'est autre que cette Église, ce système féodal du Moyen-Âge qui a imposé cela, parce que c'est une autorité politique qu'il a imposée en la personne de Constantin, mais c'est une personne politique en la personne de l'Église qui l'a relayée. Voyez-vous, arrivé à ce moment, il nous faut réfléchir. Il nous faut savoir ce que nous faisons. La pratique que nous avons d'observation, d'un jour de repos, mais c'est vrai pour toutes les autres pratiques. Cette pratique-là, quel sens a-t-elle? Est-ce que ce que nous faisons a un sens? Est-ce que c'est simplement une tradition? Est-ce que c'est simplement une habitude? Ou est-ce que ça a un sens? Et je vous invite à réfléchir sur tout ce que vous faites, tout ce que vous faites peut-être même sans y penser, mais qui finalement a un sens. Quel sens allons-nous donner à notre pratique, et tout particulièrement à notre pratique religieuse? Avons-nous conscience que ce que nous faisons marque la pensée, rappelle des souvenirs, représente une appartenance? Par exemple, le fait d'observer le sabbat est un rappel de la création. Parce que Dieu s'est reposé le septième jour, non pas qu'il n'en avait besoin, mais il a voulu nous montrer ce qu'il attendait de nous. Et ce jour-là, il l'a mis à part. Et s'il l'a mis à part, vais-je le dédaigner? Ce sabbat me rappelle aussi la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la sortie de mon propre péché, la sortie de la servitude. Il a donc un sens. Est-ce que je réfléchis à ce sens? Est-ce que ça a de la valeur? Il est important que chacun puisse intervenir en pleine connaissance de cause. Voyez-vous, nous pouvons pratiquer des choses sans même le réaliser. Alors c'est simplement une marque sur la main. Mais si cette pratique-là réveille en nous des souvenirs, correspond à une réalité plus profonde, alors la marque est sur le front. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons marqués au front. Une marque sur la main ne l'intéresse pas. Si nous faisons des choses simplement par routine, par habitude ou par tradition. Ça ne représente rien. Le sceau de Dieu, lui, est appliqué sur le front. D'un autre côté, la marque de la bête est appliquée sur le front ou sur la main. La bête se contente d'une adoration, d'une pratique qui ne soit que de routine, qui ne soit qu'une allégeance de pure forme, mais pas Dieu. Alors de quel côté voulons-nous pencher? Que voulons-nous faire de cette pratique? Est-ce qu'elle a un sens? Parce que voyez-vous, si elle n'a pas de sens, nous pensons qu'elle est neutre, mais non. Si elle n'a pas de sens, elle est sur la main, alors elle appartient au système de la bête qui se contente d'une pratique rituelle. Donc quoi que nous fassions, ça a un sens. Et si ça n'en a pas pour nous, ça risque d'en avoir par ailleurs, parce que notre pensée est marquée. Que voulons-nous faire avec cette pensée? Pour ma part, je ne veux qu'une chose. Si je sais que ce sabbat m'est donné par Jésus, je ne veux pas autre chose que cette marque. Que Dieu nous aide à le comprendre.